Laudetur Jesus Christus.
Une chaîne de prières pour la santé du pape de Manila et Washington. Demain, le rosaire à réciter à Santiago du Chili. Ce soir, le vicaire de Rome invite à une heure d'adoration. Tout à l'heure, la présidente du Conseil italien s'est rendue au Gemelli où François, hospitalisé, n'aurait pas perdu son sens de l'humour malgré sa pneumonie bilatérale. Dans ce journal, nous irons en Allemagne. L'immigration sera sans doute ce soir au cœur des débats, encore lors du dernier débat télévisé avant les législatives de dimanche. Mais comment votent les 7 millions d'électeurs d'origine étrangère? Nous irons à Berlin. Au Brésil, le sort de Jair Bolsonaro, l'ancien président d'extrême droite, est dans les mains de la Cour suprême. Il a été inculpé pour un projet de coup d'État contre son successeur Lula en 2022. Un procès aura-t-il lieu? Et puis enfin, quel dialogue national pour construire la Syrie de demain? Ses organisateurs ont tenu leur première conférence de presse à Damas.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Sixième nuit d'hospitalisation ce soir pour le Saint-Père au Gemelli à Rome. Le tableau clinique du pape est complexe, nous dit la salle de presse du Saint-Siège. On sait désormais que le souverain pontife est affecté par une pneumonie qui touche ses deux poumons, soumis à un traitement supplémentaire depuis hier soir. Son moral serait toutefois bon, son sens de l'humour intact. Le pape qui remercie les fidèles de leur attention leur demande, comme toujours, de prier pour lui, ce que nombre d'entre eux ne manquent pas de faire, Delphine Allaire.
Absolument, Marie, a commencé par les fidèles de Rome, dont François est l'évêque. Nombre d'entre eux recueillis devant l'hôpital Gemelli ont allumé des bougies à l'effigie du pape en signe de soutien. Toutes les paroisses de la ville éternelle sont invitées à une heure d'adoration silencieuse avant les messes du soir pour la guérison du pape de 88 ans. Fidèles, anonymes, personnalités, dirigeants ou communautés chrétiennes multiplient leurs messages depuis vendredi dernier. Ainsi de la conférence épiscopale italienne, des évêques de Belgique, des épiscopats latino-américains. Un rosaire sera récité d'ailleurs demain au Chili. Des évêques portugais, autrichiens, philippins, le patriarche latin de Jérusalem propose lui une prière spéciale, tandis que plusieurs voix du monde chrétien, comme celle de l'archevêque anglican d'York ou du patriarche écuménique Bartholomé, se joignent à ses vœux de guérison. Des autorités politiques, le vice-président américain catholique J.D. Vance a lancé un appel à la prière, largement relayé sur les réseaux sociaux. Proximité affichée également du président brésilien Lula, ami de longue date de François. Enfin, au nom du gouvernement et de la nation tout entière, la présidente du Conseil italien s'est-elle physiquement rendue au chevet du pape cet après-midi. Giorgia Meloni a trouvé François alerte et réceptif, plein d'humour, ce que confirme aussi le Vatican dans plusieurs de ses bulletins de santé.
Merci Delphine Allaire. Et puis ce matin, en raison de son hospitalisation, l'audience générale a été annulée, mais sa catéchèse a été publiée. Elle porte sur la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Le pape François y invite les fidèles à suivre leur exemple en adorant Dieu dans sa petitesse, dans sa royauté qui ne nous écrase pas, dit-il, mais qui nous libère et nous permet de servir avec dignité. Plus de détails, bien sûr, sur notre site internet. Alors que la guerre en Ukraine s'apprête lundi prochain à entrer dans sa quatrième année, la Russie revendique aujourd'hui une nouvelle offensive lancée au nord de l'Ukraine depuis la région russe de Kursk. Ce serait la première depuis la retraite russe du printemps 2022 et c'est le président Vladimir Poutine en personne qui en a fait l'annonce, tandis que Kiev dément ce soir. Le chef du Kremlin qui s'est par ailleurs félicité de la rencontre qui s'est tenue hier entre le chef de sa diplomatie et celui de Washington. À Riyad, ces deux derniers ont convenu de négocier sur l'Ukraine mais sans convier Kiev, ni d'ailleurs les Européens. Dans la foulée, le président américain Donald Trump a lancé une charge acerbe contre son ancien allié, accusant le président ukrainien d'être impopulaire, non légitime. Double coup de canif au soutien passé des États-Unis à l'Ukraine. Ce soir, le président Zelensky dit respecter Donald Trump, mais l'accuse de vivre dans un espace de désinformation russe, a-t-il dit. Quant aux Européens, eh bien le président français poursuit ses consultations. Une vidéoconférence a réuni en début d'après-midi aujourd'hui 19 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'UE ou de l'OTAN. Objectif, trouver une position commune sur l'Ukraine. Et puis, sur fond de menaces russes, le Danemark a donc annoncé la création d'un fonds. 6,8 milliards d'euros supplémentaires seront alloués cette année à sa défense pour 2025-2026. J-4 avant les élections anticipées en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz jouera ce soir son va-tout dans un ultime duel télévisé face au chef de l'opposition, le conservateur Friedrich Merz. Ce dernier est le grand favori des élections de dimanche. Il lui faudra éviter tout faux pas fin janvier. Son initiative parlementaire visant à durcir la politique migratoire avec les voix du parti d'extrême droite, l'AFD, a fait fragiliser sa position. L'immigration, une thématique qui dominera sans doute encore les débats ce soir. Mais comment est-il perçu par les 7 millions d'électeurs d'origine étrangère, un chiffre record sur 60 millions de votants? Quel sera leur choix? On retrouve à Berlin Delphine Herbollier.
Comme le reste de la population, les Allemands d'origine étrangère votent de manière assez hétérogène. Tout dépend donc souvent de leur pays d'origine. Sur ces 7 millions d'électeurs, 1 million a des liens avec la Pologne voisine, un autre million avec la Turquie. Parmi ces deux groupes d'électeurs, c'est le parti de centre-gauche social-démocrate du chancelier Scholz qui jusque-là est le plus apprécié. La droite chrétienne-démocrate de Friedrich Merz reçoit lui davantage de soutien des électeurs venus d'ex-Union soviétique. Ces tendances générales sont toutefois fragilisées. Comme le reste de la société, ces électeurs ont de moins en moins confiance dans le gouvernement et dans les partis traditionnels. Cela se ressent particulièrement chez les musulmans. Les petites formations politiques pourraient en profiter, tout comme l'extrême droite. L'AFD a d'ailleurs ajusté sa stratégie sur les médias sociaux et vise directement les électeurs d'origine turque et russe. Autre nouveauté, de nombreux Syriens arrivés depuis 2015 pourront voter, souvent pour la première fois ce dimanche. Un phénomène qui devrait s'accélérer dans les années à venir, car l'Allemagne a récemment facilité le processus de naturalisation. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
Et en pleine tension politique et sociale, une grève des transports publics de proximité est annoncée vendredi dans 6 Länder allemands à 2 jours des élections fédérales. Au Brésil, le destin de Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite, est entre les mains de la Cour suprême après son inculpation pour un projet présumé de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022. Y aura-t-il un procès ? La correspondance de Jean-Mathieu Albertini.
C'est bien une tentative de coup d'État qu'évoque le parquet. Il y a un décret d'état de siège qui aurait été préparé, mais aussi une opération menée par des forces spéciales. Appelée Poignard Vert et Jaune, elle aurait dû mener aux exécutions de Lula, de son vice-président et d'un juge de la Cour suprême. Enfin, il y a aussi la tentative de créer le chaos le 8 janvier, avec la mise à sac des lieux de pouvoir de la capitale par des milliers de bolsonaristes. Cette inculpation se base sur une longue enquête de la police fédérale. Le projet n'aurait pas abouti en raison d'un manque de soutien dans l'armée, mais Jair Bolsonaro y aurait pris part directement. 33 autres suspects sont aussi accusés. Son candidat à la vice-présidence, le général Braga Neto, fait partie de cette liste. Il a été arrêté fin 2024, accusé de faire entrave à l'enquête. Si la Cour suprême décide de l'ouverture d'un procès, il devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Déjà condamné à une peine d'inéligibilité dans une autre affaire, Jair Bolsonaro se dit innocent. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Au Proche-Orient, le Hamas se dit prêt à libérer tous les otages restant à Gaza et en une fois lors de la deuxième phase de la trêve avec Israël qui devrait commencer début mars. Le mouvement islamiste doit rendre demain jeudi à Israël les corps de 4 otages parmi lesquels, selon le mouvement, ceux de des deux derniers enfants détenus à Gaza et de leur mère. Alors que les Syriens attendent avec impatience le lancement du dialogue national en Syrie, les préparatifs battent leur plein lors de leur première conférence de presse. Le comité organisateur a esquissé les grandes lignes du futur congrès abordant des sujets cruciaux pour l'avenir du pays. Mohamed Erami.
Contrairement à ce qui était attendu, le comité préparatoire du congrès du dialogue national en Syrie n'a pas annoncé la date officielle de son ouverture lors de leur première conférence de presse. Ils ont tracé les grandes lignes du futur congrès, parmi lesquelles figure l'importance d'inclure toutes les parties syriennes, lesquelles devront s'entendre sur la rédaction de la nouvelle constitution du pays, comme l'a souligné Hussein El-Dari, membre du comité.
C'est important de prendre en compte l'avis des Syriens dans la formation des autorités, l'image et la réputation du pays, de veiller à l'amélioration de leur vie et de leur économie, ainsi qu'à la réforme politique.
La question des femmes a été un point central dans ces grandes lignes, avec l'insistance sur leur présence à toutes les étapes de la transition et de la constitution de l'avenir de la Syrie, comme l'a mentionné Huda Tassi, membre du comité.
Aujourd'hui, nous nous trouvons face à un moment historique pour dessiner les contours de l'avenir de la Syrie à travers un dialogue national responsable qui renforce l'unité des Syriens et des Syriennes.
Par ailleurs, les forces démocratiques syriennes, FDS, composées en grande partie de combattants kurdes, ne prendront pas part au congrès. Lors de la conférence de presse, le comité a précisé que leur participation restait conditionnée à leur désarmement, un préalable que les FDS n'ont pour l'heure pas accepté.
En Turquie, le patron des patrons turcs, Orhan Turan, a été interpellé aujourd'hui et emmené par la police à un tribunal d'Istanbul. Il avait émis des critiques contre le système judiciaire, apportent les médias turcs. Face à l'avancée du M23 soutenue par les troupes rwandaises au sud Kivu dans l'est de la RDC, le président congolais Félix Tshisekedi aurait demandé une aide militaire à N'Djamena, une information de nos confrères de RFI. Dans l'est de la RDC, malgré les démentis officiels, le Burundi retirerait discrètement ses troupes. Environ 10 000 soldats depuis 2023. Et puis de son côté, l'Ouganda, lui, reste. Ses militaires sécurisent la ville de Bunia en collaboration avec les forces congolaises. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du pape, du monde, de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée.